Quand il s'agit de parler de Dieu, les gens disent n'importe quoi. Mais le pire est qu'ils lui manquent de respect parce qu'ils n'ont pas la moindre idée qui il est réellement. Alors ils se moquent de lui ou profèrent des menaces ou essayent de le provoquer comme s'il s'agissait d'un simple homme. Quand j'entends quelqu'un parler légèrement du Seigneur, ça provoque en moi un mouvement de recul, mais en même temps, j'éprouve un sentiment de pitié pour cette personne parce qu'elle ne sait pas qu'elle accumule des charbons ardents sur sa tête. Je continue à lire dans le 3e chapitre du livre d'Habacuc. Dieu arrive, j'ai vu les tentes de Cushan réduites à néant, les abris de Madian tremblaient, épouvantés. Verset 7. Cushan est un autre mot pour Cush, le nom biblique de l'Éthiopie. Ce pays se trouvait à l'ouest de la mer Rouge. Quant à Madian, c'est le nom du peuple nomade qui habitait au bord du golfe d'Aqaba, la branche est de la mer Rouge. À cause de leur situation géographique, Cushan et Madian évoquent la traversée de la mer Rouge ou mer des roseaux par les Hébreux tout de suite après leur sortie d'Égypte. Tandis que le Dieu de gloire se déplace en venant du sud pour exécuter ses jugements, les nations sont saisies d'effroi comme dans les temps anciens quand les peuples apprenaient, d'une part, que le Dieu des Hébreux avait frappé l'Égypte, ce qui avait permis à son peuple de quitter le pays de la captivité, et d'autre part, que les Hébreux se dirigeaient vers la Palestine pour en prendre possession. L'Éternel en colère, qui fait tout trembler devant lui, est une scène reprise dans une prophétie d'Ézéchiel qui concerne la dernière bataille de l'histoire de l'humanité à la fin du millénium. Je continue le texte. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux et pour que tu bondisses sur tes chars de délivrance. Verset 8. L'Éternel s'est rapproché d'Habacuc qui l'observe et qui est conscient de sa présence. Alors que jusqu'ici le prophète parlait de l'Éternel à la troisième personne, maintenant il s'adresse directement à lui. Interrompant la description de ce qu'il voit, il demande la raison de la fureur divine. Les questions qu'Habacuc pose n'exige pas de réponse car ce sont des figures de rhétorique destinées à animer le texte. Dieu se présente sous les traits d'un guerrier tout équipé, prêt à combattre. L'épouvante qu'il cause, l'effet produit sur les montagnes, se communique maintenant au fleuve et à la mer. Son action sur la nature va en s'accroissant. Mais alors, est-ce que Dieu est fâché contre les éléments naturels? Absolument pas. Il n'a rien contre la Méditerranée, la mer Rouge, le Jourdain ou le Nil. Par contre, il en veut aux ennemis de son peuple, car ce sont aussi les siens. Cette image de Dieu monté sur des chevaux est reprise par David dans un psaume où il dit qu'un chérubin est sa monture. Dans sa vision prophétique, Habacuc voit l'Éternel à la tête d'une armée venue pour défendre les Israélites et leur apporter la délivrance en combattant leurs ennemis. Je continue. Ton arc est mis à nu, en accord avec les serments faits aux tribus. Pause. Verset 9. Habacuc continue sa description de l'Éternel accoutré en homme de guerre. C'est aussi comme ça que Moïse le perçoit, car dans son cantique, il dit « L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom ». Les dessins des monuments assyriens montrent que les tireurs à l'arc portaient un carquois en deux parties, dont l'une servait à transporter l'arc et l'autre les flèches. Apparemment, c'est aussi ce genre de carquois que porte l'Éternel, car le prophète le voit mettre son arc à nu, c'est-à-dire le dégainer et lui se tenir prêt à l'action. Dans le livre de l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean décrit sa vision, il dit « et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. En hébreu, la deuxième phrase du verset, en accord avec les serments faits aux tribus, comporte trois mots qui sont particulièrement difficiles à traduire parce qu'il manque quelque chose. En conséquence, on compte une centaine de traductions possibles. Néanmoins, les spécialistes sont d'accord avec Jérôme, traducteur de la Vulgate, pour dire que l'idée exprimée par les trois mots hébreux est « Si Dieu vient combattre pour les tribus d'Israël, c'est parce qu'il leur avait juré fidélité et il tient toujours sa parole. » Dans le texte d'Habacuc, cette affirmation qui souligne que Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites à Israël est suivie d'une pause, c'est-à-dire de l'arrêt de la récitation, tandis que les instruments retentissent de toute leur puissance. Je continue le texte. « Tu crevasses la terre, livrant passage au fleuve. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent. L'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. » Versets 9 et 10. Habacuc reprend la récitation et continue à décrire l'effet de la venue de l'Éternel sur la nature. De toute évidence, il voit une catastrophe qui met en scène un déluge accompagné d'un tremblement de terre comme ce qui était arrivé au mont Sinaï. L'abîme que mentionne Habacuc représente les masses d'eau sous terre et dans les océans. Comme pour le déluge, toutes ces eaux s'unissent à celles des fleuves et des cieux et provoquent un chamboulement complet de la nature. Je continue le texte. Le soleil, la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lueur de tes flèches qui volent, à l'éclat de ta lance étincelante. Verset 11. Selon la vision du monde des anciens orientaux, le soleil et la lune ont une demeure d'où ils sortent à leur lever et où ils rentrent quand ils se couchent. Mais ici, ces deux astres restent cloîtrés chez eux. Habacuc les compare à des personnes qui refusent de sortir par crainte de la colère divine qui se manifeste au dehors par des cataclysmes sans précédent. La lune et le soleil ne se montrant pas, il n'y a pas de lumière et le monde est plongé dans d'épaisses ténèbres qui sont cependant entrecoupés d'éclairs violents appelés les flèches et la lance de l'Éternel. Ce texte d'Habacuc en rappelle un autre du prophète Ésaïe qui, parlant du jour de l'Éternel, le décrit comme un jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. Le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. Je continue le texte d'Habacuc. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Verset 12. Littéralement, tu tritures, tu broies aux pieds les nations. L'Éternel n'y va pas de main morte et il ne marche pas sur la pointe des pieds entre deux rangées de fleurs. Habacuc le compare plutôt à un bœuf qui écrase le grain, à un géant furieux qui piétine tout ce qui porte la moindre trace humaine, car il veut faire disparaître tous les pécheurs de la surface de la terre. Je continue. « Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver avec celui qui a reçu l'onction. » Verset 13. Quand on lit dans les Écritures que l'Éternel sort, se met en route ou en campagne, c'est pour venir en aide à Israël et pour punir ses ennemis. Ici, Dieu se révèle pour délivrer son peuple, mais il le fait en union avec celui qui a reçu l'onction. Mais qui est-il? Il s'agit tout d'abord du roi de Juda, dont l'une des fonctions était de conduire son peuple à la guerre. Mais ce roi n'était qu'un pis-aller et un précurseur du roi des rois. Le véritable oint de Dieu est Jésus-Christ, car c'est lui qui, à la fin des temps, vaincra l'Antichrist, mettra fin à la Babylone reconstituée et instaurera son royaume millénaire. Je continue le texte. Tu as décapité la tête de la maison du méchant, mettant à nu ses fondations, même jusqu'au cou. Pause. Verset 13. La maison du méchant est l'empire chaldéen et sa tête est son roi. C'était vrai pour la Babylone antique, mais aussi pour la Babylone reconstituée de la fin des temps. Dieu va détruire le royaume et son dirigeant, démolir l'empire de fond en comble en allant de haut en bas. Il mettra d'abord fin au règne de son chef, puis descendra pour aller jusqu'à la base, c'est-à-dire le peuple. Il n'en restera rien. Ce jugement solennel est suivi d'une pause. La récitation s'arrête et les instruments retentissent de toute leur puissance. Je continue avec une traduction littérale du verset 14. « Tu as percé de ses propres traits le chef de ses villages qui se précipitaient pour me disperser. Il poussait des cris de joie comme s'il dévorait déjà à l'écart le malheureux. Ces phrases, prises comme telles, n'ont guère de sens parce que certains mots peuvent être traduits différemment. Selon l'avis des spécialistes, ce verset dit « Tu transperces la tête des hordes ennemies avec leurs propres flèches » alors qu'ils arrivaient comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer le malheureux sans défense dans son refuge. Verset 14. Maintenant, il faut se demander de quel événement Habacuc parle-t-il. C'est relativement évident parce qu'il a déjà fait plusieurs fois référence à l'Exode. Ici donc, le prophète rappelle la poursuite des Hébreux par l'armée du Pharaon, lancée à toute vitesse à leurs trousses. Alors qu'ils chevauchaient, les soldats égyptiens se réjouissaient d'avance du massacre qu'ils allaient faire en tuant tous les Israélites, hommes, femmes et enfants, tandis qu'ils essaieraient en vain de se cacher dans le désert. Mais ce n'est pas du tout comme ça que s'est déroulée la suite parce que l'Éternel est intervenu. Faisant fi de toute prudence, les Égyptiens, ivres de colère, ont poursuivi les Hébreux entre deux murs d'eau. Ils sont entrés dans la souricière, tête baissée, pour être engloutis avec armes et bagages. Il ne fait guère de doute que, brassés par les eaux en furie, les chars de combat et toutes les armes se sont retournés contre les soldats pour leur donner la mort. Ici, c'est la mer qui a tué les Égyptiens, mais dans les Écritures, on trouve plusieurs situations où des peuples qui font la guerre à Israël décident soudainement de s'entretuer. Ce scénario se reproduira à la fin des temps quand les ennemis du peuple de Dieu se détruiront mutuellement. Je continue le texte d'Habacuc. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. Verset 15. La liste des actions de Dieu en faveur de son peuple se termine avec un bref résumé du verset précédent. L'intervention de l'Éternel qui a détruit l'armée du Pharaon. Cet épisode épique est toujours présenté dans les Écritures comme l'exemple type de délivrance du peuple de Dieu. Ici, l'Éternel est décrit comme un guerrier qui, dans son char de combat, mène la charge contre ses ennemis. Ces rappels de la bonté que l'Éternel a manifestée envers son peuple dans les temps lointains ne sont pas des répétitions inutiles. Quand, environ 60 ans plus tard, les armées de Babylone envahiront Juda, les hommes pieux se tourneront alors vers les écrits prophétiques, dont celui d'Habacuc, pour chercher du réconfort. Les délivrances et la miséricorde divine du passé sont les garants de l'avenir. Je continue le texte. J'ai entendu, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres ont frémi à la voix de Dieu et mes os se sont dissous. J'ai tremblé dans tout mon corps. moi qui sera en paix le jour de la détresse, quand l'envahisseur avec ses bandes marchera contre le peuple. » Verset 16. C'est la seconde fois qu'Habacuc affirme qu'il a bien reçu et compris la vision que l'Éternel lui a communiquée. Bien que Dieu ait répondu à ses questions et exaucé ses prières, dans un premier temps, le prophète est catastrophé à cause de la tragédie qui guette Juda, sa patrie, car il comprend la sévérité du châtiment qui va frapper son peuple. Il fait une grosse crise d'angoisse qu'il exprime physiquement par les symptômes qu'il décrit. Cependant, il fait soudain volte-face et au nom de tous les Israélites pieux et dévoués à l'Éternel, il dit sa confiance en Dieu, car il est sûr qu'en plein règne de terreur, ils seront préservés. Soit ils seront délivrés de leurs ennemis, soit ils connaîtront cette paix de l'âme que mentionne l'apôtre Paul et qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Je continue le texte. « Car le figuier ne bourgeonnera plus et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos. » Les bœufs de leurs étables. Verset 17. Habacuc fait l'inventaire des conséquences de l'invasion babylonienne. Pas de récolte de figues, de raisins, d'olives et de céréales, toutes des denrées indispensables pour le peuple de Juda. Il faut savoir que c'était la coutume des Chaldéens, des Assyriens et des Égyptiens de couper et de brûler les arbres fruitiers des nations qu'ils envahissaient. Les Israélites n'agissaient pas ainsi parce que dans la loi il est écrit « Lorsque vous attaquerez une ville et que vous serez obligés de prolonger le siège avant de pouvoir vous en emparer, vous ne porterez pas la hache sur les arbres fruitiers des alentours. Vous pourrez en manger les fruits, mais vous ne les abattrez pas car l'arbre des champs n'est pas un homme pour que vous le traitiez comme un assiégé. Quant aux troupeaux d'ovins, ils périront » lorsque les Babyloniens envahiront Juda, par manque de nourriture, et les quelques bêtes qui resteront en vie seront abattues et dévorées par les envahisseurs. Les photos et films que nous possédons des villages qui se trouvaient sur le front de la guerre 14-18 montrent à quoi dans l'Antiquité pouvait ressembler un pays dévasté par ses ennemis. Je continue le texte d'Habacuc. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Verset 18. « En dépit du malheur à venir, dont le spectacle obsède la pensée du prophète, sa foi reprend le dessus et bannit l'inquiétude. Habacuc ne dit pas qu'il va supporter la détresse en serrant les dents, mais qu'il va se réjouir dans le Seigneur, car le Dieu de son salut est aussi une source inépuisable de joie. Le roi David chantait « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. » Vers le milieu du XXe siècle, un groupe, les Compagnons de la Chanson, chantait « Je suis le vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. » C'est un très beau refrain, pourtant le bonheur ne s'achète pas et on ne le trouve pas de façon permanente dans des circonstances favorables. La joie est disponible à tout un chacun, même à ceux qui ne possèdent absolument rien. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre a décimé Haïti et plus particulièrement Port-au-Prince. Eh bien, les jours qui ont suivi, on a pu voir des groupes de gens qui spontanément se mettaient à chanter et à louer Dieu. L'apôtre Paul, parlant des églises grecques de Macédoine, écrit qu'elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. La véritable joie se trouve dans une personne, en Jésus-Christ, dans une relation intime et personnelle avec lui. Ce qui fait que même ceux qui sont dans la détresse la plus profonde peuvent avoir le cœur en fête. Je finis le chapitre 3 et le livre d'Habacuc. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés, pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Verset 19. Ces indications musicales, qu'on trouve aussi au début de certains psaumes, sont destinées au chef des chantres qui dirige la musique du temple devant l'assemblée des fidèles. La biche représente la force, l'agilité, la grâce et la vitesse. Tout comme une biche peut rapidement traverser une forêt dans la nuit, c'est avec un cœur léger, car confiant en l'Éternel, que le prophète et les Israélites pieux feront face aux circonstances difficiles qui attendent leur peuple. Habacuc ajoute que Dieu le fait cheminer sur les lieux élevés. Cette expression, qui est aussi rendue par chevaucher ou marcher sur les hauteurs du pays, signifie posséder et gouverner un pays. Ici, Habacuc exprime sa confiance en Dieu en disant que les Israélites pieux surmonteront toutes les difficultés et en sortiront vainqueurs d'une manière ou d'une autre, eux et leurs descendants. Au début du livre, on fait connaissance avec un prophète qui est au fond du trou. À la fin de ce cantique, on le voit au sommet des montagnes. De prophète perplexe, accablé et amer, il a été transformé en un prédicateur joyeux et confiant en l'avenir.